Xavier Ducrest dirige Handicap International en France depuis environ 4 ans. Mais avant de diriger cette très noble institution, Xavier a été longtemps un publicitaire chevronné qui a monté des agences et qui en a dirigé d'autres. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, je ne vais pas vous demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vais vous demander à l'inverse d'aller faire un don, si évidemment vous en avez envie, si vous le pouvez, sur handicap-international.fr. En outre, cet épisode va vous montrer qu'on peut avoir 1000 vies, revenir de très très loin et avoir une magnifique carrière. Et justement, écoutez les conseils que vous donne à cet effet Xavier. Vous allez voir qu'ils sortent de l'ordinaire, qu'ils sont pleins d'entrain et que cet homme a toujours épousé les plus nobles causes. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et vous souhaite une très très belle écoute en compagnie de Xavier.
Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick.
Salut Xavier.
Bonjour.
Comment on va ?
Bien Laurent, et toi ?
Eh bien écoute, ça va très très bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation au décodeur de la communication. Xavier, tu diriges depuis à peu près 5 ans Handicap International France, tu en es le directeur, mais tu as un parcours de publicitaire, de communicant très chevronné. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et puis évidemment présenter la très noble institution que tu représentes s'il te plaît?
Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc Xavier Ducrest, je suis directeur France de Handicap International depuis janvier 2017, j'y suis entré en mars 2016. Après un passage de 3 ans et demi dans une autre association dont on reparlera sans doute après. Pour vous dire mon parcours rapidement, après un bac littéraire, fait des études aux arts appliqués métiers d'art rue Olivier de Serres et j'en suis sorti avec un BTS de communication visuelle. J'ai commencé à travailler très tôt parce que je devais assumer mon quotidien au journal du dimanche pendant mes études. Journal du dimanche pour lequel je faisais du pigiste, de direction artistique, création de cabochons, illustration d'articles, etc. pendant un peu plus d'un an et demi. Je suis sorti de l'école et j'ai été pris tout de suite dans une toute petite agence qui m'a formé à tous les métiers de la communication, car quand on est dans une toute petite agence, on est à la fois créatif, directeur artistique, rédacteur, un peu commercial, enfin on fait un peu de tout, un peu illustrateur, un peu Rossmann. Et donc j'ai fait tout ça pendant plus de 2 ans. Et puis j'ai changé pour un studio de création qui faisait plus des produits de grande consommation qui m'intéressaient un peu plus. Et puis ensuite une véritable agence qui travaillait à 80% sur de la communication télé. Et puis ensuite, je me suis lancé pour monter ma propre structure de façon assez naïve, le succès a été au rendez-vous, donc on a bien démarré, puis une deuxième entreprise, puis une troisième, et puis avec des aventures que je vous raconterai parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, les aventures professionnelles, je suis rentré chez Havas Dansu Marceller à l'époque avec quelques-uns de mes clients et j'ai été le 5e directeur de création, donc le plus jeune de cette très grande agence à l'époque, que j'ai ensuite quitté au bout de 3 ans et demi parce que c'était trop gros pour moi et que j'avais besoin de retrouver l'état d'esprit entrepreneurial. Et donc, j'ai rejoint une petite agence, toute petite agence de 12 personnes à Lyon, que l'on a redynamisé, redéveloppé à 60 personnes, 3 filiales, Paris, Lyon, Annecy. Et on a participé à la dynamique de développement du premier réseau d'agences indépendantes au monde, Independent Network, de 90 agences. Et j'étais au board de cette organisation, qui était un GIE, en charge du développement stratégique des agences. Voilà pour le parcours assez court professionnel publicitaire. Et puis, j'ai toujours travaillé sur un autre pied. Et donc, ça, c'était le pied économique du secteur marchand et privé. J'ai toujours travaillé sur le pied social en donnant du temps à différentes associations, que ce soit à Paris, au niveau national ou international. Et en arrivant à Lyon, j'ai rencontré Jean-Baptiste Richardier, le cofondateur d'Handicap International. Et puis, il y a eu un avant et un après. Et donc, pendant 20 ans de collaboration, c'est assez rare entre une agence et un client. Alors, c'était un client et un non-client, puisqu'on travaillait bénévolement pour Handicap International, mais c'est là que l'on a fait nos plus belles campagnes, je peux vous le dire. Les plus beaux événements, les plus beaux lancements de produits, ça a été une aventure pendant 20 ans assez exceptionnelle. Bon, et puis, je vous raconterai ça par la suite. J'imagine, Laurent, que tu me poseras des questions sur la façon dont on devient directeur France Handicap International par la suite.
Eh bien justement, c'est assez intéressant ce que tu racontes là, parce que ton parcours est plutôt un parcours de directeur artistique à la base, alors même si tu es diplômé d'un BTS, ce qui ne prépare pas nécessairement à faire du design, hein, mais tu es graphiste, donc côté artistique, tu fais beaucoup de développement, ce que je trouve super intéressant. Et au final, tu diriges une très très belle structure aujourd'hui. Alors, c'est un parcours de vie, bien entendu, parce que ça ne s'est pas fait en 3 ans. Mais comment ça se fait? Parce que ton parcours est très 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 atypique dans les métiers de la communication et tout court, j'ai envie de te dire.
Alors, c'est atypique parce que ma philosophie de vie imprègne mon parcours professionnel. Il faut avant tout se rêver de qui l'on veut être, avant de savoir ce que l'on veut faire. Et je crois que c'est vraiment la base de la base. Et moi, le seul conseil que je donnerais à toutes celles et ceux qui veulent faire ce métier de communication, et au sens large, parce qu'il y a tellement de métiers dans la communication qu'il faut ensuite choisir sa profession dans la communication, c'est vraiment de réfléchir à qui je veux être et avoir une passion. Moi, ma passion, je suis né avec un crayon dans la main. Je ne sais pas pourquoi, ou plutôt j'ai pu analyser ça par la suite en regardant mon parcours. J'étais assez cancre, j'étais assez bougeon et passais beaucoup de temps derrière un pupitre à prendre des choses pour lesquelles je n'avais pas d'appétence, a fait que j'ai griffonné dans les marges de mes cahiers, et mes cahiers sont devenus des BD, pour faire simple. Et du coup, j'ai eu des parents qui se sont intéressés à mes dessins, puisqu'ils voyaient que c'est ce qui me passionnait. Alors, au début, c'était par défaut, puisque les cours ne m'intéressaient pas. Puis ensuite, ça a été par passion, puisque quand quelqu'un s'intéresse à vous et que vous êtes valorisé par ce que vous faites, ben, c'est là que vous finissez par performer. Et donc, j'ai pris des cours de dessin. Mes parents m'ont inscrit à des cours de dessin divers et variés. J'ai fait des concours d'affiches. Tout de suite, pour moi, l'expression, c'était l'affiche, avec un certain succès, etc. Et puis donc, globalement, le dessin, l'art appliqué à un métier est venu s'imposer à moi. Et ensuite, la réflexion a été de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors d'abord, j'en ai fait une vraie source de plaisir. Franchement, crayonner un concept et ensuite le voir se réaliser, que ce soit en affichage ou en film télé, vraiment, ou en spot radio, c'est un vrai, vrai grand plaisir. Pour l'ego, hein, il faut se l'avouer, hein, mais aussi pour le métier que c'est, parce qu'on touchait à l'époque à tout ce qui était à la fois visuel, graphisme, audio, vidéo, les films. J'ai tourné avec les plus grands réalisateurs de films, ça a été des moments absolument merveilleux, et un peu partout dans le monde, donc c'était formidable. Donc un vrai plaisir, mais ce plaisir, il est vain. C'est-à-dire qu'une campagne, ça passe. Et au fond, qui l'on veut être, on veut être, enfin en tout cas, ce qui motivé moi, c'est de vouloir être acteur de la société. Et il y a différentes façons d'être acteur dans la société. En étant entrepreneur, ce que j'ai été, du coup, tu me poses la question, Laurent, à savoir, je suis passé au développement. Bah oui, par force, parce que quand on a une agence de pub, on a beau être le directeur de création de cette agence et le créatif, animer des équipes, il faut aussi la développer. Et au fond, j'avais une certaine facilité à argumenter, à présenter. Ça venait plus de mes tripes que de ma tête, et donc avec une certaine conviction, je suis assez assertif quand je crois dans mes idées, donc j'ai entre guillemets vendu des campagnes, mieux sans doute que d'autres, et du coup c'est ce qui m'a fait me consacrer à la fois à l'aspect très commercial, parce que c'est aussi ça, développer, quand on est créatif, on développe des idées, on développe des structures, on développe des produits, on développe, et donc j'ai développé des structures par un instinct commercial. Encore une fois, pour revenir sur la formation des jeunes qui veulent faire ce métier, je crois que pas loin de 90% de ce que je sais faire aujourd'hui dans ma profession, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris en faisant. Et croyez-moi, j'ai eu des idées assez loufoques que finalement j'ai lancées quand même avec une confiance extrême dans notre capacité à les réaliser. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire se dire, si je fais une cartographie des risques, dans ce que j'entreprends, je pense que je serais resté fossilisé sur ma chaise et je n'aurais jamais bougé. Donc la prise de risque, elle est majeure, avec une vraie confiance en soi dans la perspective de pouvoir les réaliser. Alors, j'ai pris des gamelles, hein, mais somme toute, quand on fait l'analyse du tout, ça c'est finalement et ça a été très bénéfique. Mais qui l'on veut être, comment on veut le faire, qu'est-ce qu'on apprend au fil du temps? Qu'est-ce qu'on accepte de ne pas savoir pour apprendre, quels risques l'on prend qui sont des risques pas toujours mesurés parce que sinon on ne fait rien, et puis avancer parce que comme le dit Einstein, pour garder l'équilibre dans la vie, c'est comme la bicyclette, il faut avancer. Ça a été aussi un moteur, donc un moteur à la fois professionnel, à la fois un moteur social, parce que quand je me disais pour être acteur social, être entrepreneur, c'est être mandataire social, hein, donc on est vraiment dans la société, et on est responsable de salaire, de salariés, d'entreprise, de réussite commerciale, donc du secteur marchand, donc de l'économie au sens large. Mais je voulais m'intéresser aussi aux fragilités. En étant à l'écoute, ouvert aux fragilités, ben on est ouvert aussi aux rencontres, et c'est pour ça qu'en ayant rencontré Jean-Baptiste Richardier, fondateur d'Handicap International, on s'est investi totalement dans ces campagnes. Et c'est ce qui a fait que, au bout d'un moment, on est sur deux grands pieds, et puis il faut faire un choix.
Alors justement, c'est très intéressant ce que tu me dis là, parce que quand on y réfléchit bien, Xavier, t'as une carrière qui est au top, t'es extrêmement tranquille, tu crées des belles campagnes, tu développes.
Tranquille, je sais pas, parce que c'est fait de stress.
Oui, alors justement, mais alors après, certains vont aimer le stress comme moi, parce que moi aussi, je suis entrepreneur, donc quelque part, on n'est pas entrepreneur par hasard. On aime ce stress-là, même si parfois c'est difficile, et comme tu le disais très justement, on est responsable, avant tout de salarié, ça je ne l'oublie jamais. Mais tu as cette carrière qui se développe très bien, et tu aurais très bien pu d'ailleurs te dire, bon ben voilà, tout va bien pour moi, je développe ma boîte, j'ai du pognon, tout va bien. D'où te vient cette sensibilité à l'autre, aux souffrances et aux gens qui ont un peu moins de chance que toi? Parce qu'on n'arrive pas chez Handicap International par le plus grand des hasards. Au-delà de la rencontre, il y a nécessairement une appétence pour aider l'autre. Je me trompe?
Alors non, tu ne te trompes pas, mais il faut avoir touché du doigt la fragilité. Un, j'aurais pas dû naître. Je suis né en Afrique dans des conditions complexes. Et quand on est en Afrique dans des conditions complexes, c'est un peu un morceau de chance, comme disent les Anglais, quand on est et qu'on est sans handicap et sans problème. Ensuite, à 14 ans, j'ai un accident de mobylette. J'aurais pu rester après un coma prolongé et je m'en suis remis. Ensuite, j'ai touché du doigt le décès de mes parents très jeunes. Ensuite, j'ai eu moi-même des problèmes de santé assez graves. Donc tout ça fait que pour soi et pour les autres, on s'aperçoit que au fond, la fragilité est constitutive de notre condition humaine et que j'ai eu la chance d'avoir l'énergie et la volonté d'avancer, ce que d'autres n'ont pas. Pour moi, chaque minute compte, chaque minute est importante, il faut la vivre pleinement car elle passe et qu'on ne rattrape pas le temps qui est passé. Donc chaque minute doit avoir de la valeur, chaque seconde doit avoir de la valeur. Et si cette valeur n'est pas humaine, elle ne sert à rien. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est ce que je crois a mû la totalité de ma direction de vie, ma direction professionnelle, ma direction personnelle. C'est faire en sorte de remplir chacune des secondes et des minutes de ma vie de quelque chose d'utile, de quelque chose fait de plaisir, de quelque chose fait de sens. Je crois que c'est la base de mon appétence pour aller toucher aux fragilités et d'aller tenter d'apporter ce que je peux apporter à ce secteur de notre humanité, c'est-à-dire de tendre la main pour aider toutes celles et ceux qui souffrent, quel que soit le type de souffrance, et sans a priori et sans jugement. Voilà, et ça n'empêche pas d'avoir une carrière de professionnel de la communication et de continuer, parce que dans le métier que je fais, on fait beaucoup de communication avec des sujets extrêmement compliqués, mais absolument passionnants. La communication étant la base même de la relation humaine, tout ça finit par se boucler.
Nous sommes tout à fait d'accord. Nous faisons, nous les communicants, au sens le plus large du terme, le plus beau des métiers. Et ce que je dis toujours à ma fille qui a 9 ans et demi, c'est que le jour où je serai malheureusement sur mon lit de mort, je ne compterai pas l'argent que j'ai dans mon compte en banque, mais surtout, j'essaierai de me souvenir de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, parce que il n'y a que l'humain qui compte, selon moi, c'est la plus belle des choses. Mais bon, désolé pour cette parenthèse très 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 personnelle, mais je me reconnais parfaitement en ce que tu dis là, Xavier. Justement, Xavier, je voulais te poser une question vis-à-vis de ton quotidien chez Handicap International, parce qu'on a parlé de ta carrière de communicant, tu fais encore de la communication en étant le numéro 1 en France, mais Qu'est-ce que c'est ton quotidien? Alors, évidemment, aucun jour ne se ressemble, nous sommes bien d'accord, mais Handicap International en France, c'est, je crois, plus de 300 personnes. Hein. On n'est pas dans la TPE, là, hein. On est dans quelque chose de lourd. Hein.
Alors, Laurent, je vais remettre les chiffres en place parce qu'effectivement, il y a lieu de raconter ce qu'est Handicap International aujourd'hui. Handicap International, c'est plus de 4000 salariés dans le monde et il y a 8 associations comme celle que je dirige, France, États-Unis, Canada, UK, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse. Et ces 8 associations sont organisées autour d'une fédération. Et les métiers de ces 8 associations, c'est collecter, communiquer et l'influence politique au relais du plaidoyer politique qui est mené au niveau international. Nos métiers, c'est ça. La fédération nous offre, comme tous les offices, les services partagés, que ce soit la DSI, les RH, la gestion, la compta, etc., etc. Et elle a le mandat d'intervention sur le terrain. Donc, le gros du staff est géré, organisé par la fédération. Et nous, Association Nationale, nous participons aux choix stratégiques d'intervention et nous remontons les fonds auprès de la fédération de manière à ce que, de façon concertée, on puisse aller intervenir partout où il y a des crises humanitaires. Alors, je vais vous raconter 2 secondes ce qu'est Handicap International, donc plus de 4000 salariés dans le monde, un budget de 250 millions à peu près. La France contribue pour un tiers de ce budget avec des fonds institutionnels et des fonds privés, donc du particulier, de l'entreprise et des fondations aussi. Et nous intervenons dans plus de 60 pays avec plus de 480 programmes auprès de populations qui souffrent et ces souffrances sont dues à des crises humanitaires, dues à des catastrophes naturelles ou des conflits armés. Donc nous sommes dans des situations extrêmement critiques. On est né il y a 39 ans hier, dernière parenthèse, le jour de mon anniversaire, c'est le jour de la création de Handicap International, donc il n'y a pas de hasard, j'étais prédestiné, et le jour de ma fête, c'est le jour de c'est la journée internationale du handicap, donc j'étais forcément prédestiné à être là. Donc on est né il y a 39 ans, en contexte de crise, sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, dans le plus grand camp de réfugiés pendant la guerre civile des Khmer, et deux médecins voyaient arriver dans ce grand camp de réfugiés, Khao Yai, des hommes, des femmes et des enfants fauchés par les mines, et donc il fallait amputer. Et ce faisant, ils ont constaté qu'une fois qu'ils étaient amputés, ces personnes n'avaient plus d'avenir, ne se sentaient plus des personnes humaines à part entière. Et donc, ils ont décidé d'engager de la réadaptation avec la fabrication de prothèses. Alors, à l'époque, on disait de la débrouille. Aujourd'hui, on dit de l'innovation frugale. Mais la débrouille, c'était de trouver du bois, du métal, du caoutchouc, du bambou pour faire des prothèses. Ce qu'ils ont fait de façon absolument phénoménale avec très, 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 très grand succès. Et ils ont monté leur association à partir de là. Et donc, il y a 39 ans, ils étaient 2, puis 3, puis 4. Et aujourd'hui, on est plus de 4000. Donc, c'est un succès qui est dû à la vision de ses fondateurs et à leur extrême pugnacité et à leur incroyable courage. Ils n'ont jamais, jamais rien lâché devant les difficultés qui se présentaient, devant les défis qui se présentaient. Et ils ont toujours combattu, à la fois sur le terrain. Donc, on a des programmes divers et variés d'accompagnement des victimes, mais on a aussi tout un versant politique où on est acteur de changement du monde. Et je le dis parce que c'est vrai, on a fait signer des traités internationaux qui ont changé le monde. En 97, on a fait signer un traité international d'interdiction des mines antipersonnelles. On est co-prix Nobel de la paix pour ça. En 2005, on a recommencé pour faire signer un traité international contre les bombes à sous-munitions. Et aujourd'hui, on se bat pour faire cesser les bombardements des victimes, c'est-à-dire des pratiques de guerre qui sont indignes de notre humanité. Puisqu'il faut savoir, plus de 90% des victimes aujourd'hui sont des civils dans les conflits armés. Donc voilà globalement ce qu'est Handicap International. Et pour revenir sur les chiffres, la structure que je dirige est faite de 62 ou 63 personnes par rapport au gros du staff qui est géré par la fédération. Mais c'est néanmoins la plus grosse structure parmi les associations que j'ai citées, des 8 qui constituent le réseau, encore une fois organisé autour de la fédération. Donc nous avons un directeur général international qui est à la fédération, qui est Manuel Patrouillard, et nous avons ensuite une organisation avec des conseils d'administration dans chacune des associations et un conseil d'administration international. Tout ça étant fait de façon extrêmement concertée et mutualisée.
Je te remercie pour toutes ces précisions. Je me suis un petit peu excité.
Mais c'est bien, c'est bien. J'aimerais bien. En fait, je ne sais pas si j'aimerais gérer 350 personnes. Je pense que je suis très, très bien avec ce staff-là.
Entendu. Tu disais que vous n'aviez jamais rien lâché chez Handicap International.
Oui.
Ton quotidien, c'est aussi évidemment de ne rien lâcher. chez AI. Comment ça se passe? Qui est-ce que tu rencontres? Parce que tu dois rencontrer des huiles, si je puis dire, des VIP, c'est-à-dire des politiques partout à travers le monde. Est-ce que tu peux nous donner des anecdotes? Je ne veux pas sombrer dans le voici du business en aucun cas, hein, ni de l'humanitaire, mais est-ce que tu aurais quelques anecdotes qui ne seraient pas nécessairement confidentielles pour montrer ce que tu fais dans ton quotidien, Xavier? Parce que tu as une très très grande capacité de persuasion, ça s'entend. Tu as le sourire dans la voix, donc j'espère que nos auditrices et auditeurs vont l'apprécier. Et puis après, évidemment, tu nous diras comment on fait un don chez Handicap International, ça me paraît absolument essentiel.
Ah oui, oui, ça, je prends tous les dons, même les petits, tu as parfaitement raison, Laurent, merci de m'appeler à ça. Non, c'est très simple, hein. Le quotidien, j'ai toujours été un lève-tôt, donc je me lève à peu près à 5h30. Je commence ma journée par planifier tout ce que j'ai à faire et je la finis vers 20h, mais c'est parce que je suis comme ça. Encore une fois, chaque minute compte, chaque seconde est importante. J'ai différents mandats, comme j'ai dit. Donc en communication, quand je suis arrivé, on travaillait Handicap International, travaillait avec des agences et payait des honoraires. C'est pas beau, hein, pour ce que je vais dire pour vous tous et vous toutes, mais ayant moi donné 20 ans de mon temps et du temps de mes équipes, gracieusement Handicap International, j'ai tout fait pour revenir à ça. Et j'ai trouvé. En fait, c'est très simple, hein. Dans la vie, il faut demander. Qu'est-ce qu'on risque? On risque un an, et alors? Un an, c'est égal à une dizaine, une centaine de oui. Et effectivement, on a réussi comme ça à poser des questions à des agences en leur disant, voilà, on a tel sujet, tel problème, est-ce que vous voudriez travailler pour nous gratuitement? Eh bien, ils ont dit oui, et pas les petites. Regardez ce qui a travaillé avec nous, ce ne sont pas des petites. Et la dernière en date, c'est Strike, qui sont deux créatifs absolument géniaux, absolument formidables, Pierre et Jérôme, que j'adore, et ils ont une capacité d'analyse, une capacité créative absolument géniale. Et il y a aussi une agence qui s'appelle Les Gens et Vous, avec Hervé Devineau, qui nous fait gratuitement toute la stratégie marketing de la déclinaison de la marque de Hachi sur les produits, qui nous accompagne sur les packaging, sur les communications presse et télé des produits. Mais on a aussi Laurent qui nous accompagne, un autre Laurent, qui est un ancien d'ailleurs de chez Hachi, que j'avais rencontré chez Hachi, qui a monté sa société digitale et qui nous accompagne gracieusement sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. etc. Donc ça, c'est la communication. Mais j'ai aussi beaucoup de ressources humaines à faire. Je gère les ressources humaines, bien entendu, comme tout patron d'une structure. Mais j'ai aussi de la redevabilité en gestion et compta. Et je suis très aidé par la fédération en contrôle de gestion et en finance. J'ai aussi effectivement les rencontres institutionnelles. Je me suis vu aller au centre de crise, au ministère des Affaires étrangères, à l'Élysée, dans différentes mairies, dont celle de Lyon, président de la région. J'ai fréquenté, bien entendu, voilà une anecdote, Laurent, et un appel. Anecdote et appel. Il y a 2 ans, pour travailler contre le bombardement des civils, l'agence avec qui on travaille nous sort une idée absolument merveilleuse. Et ils ont décidé, pendant la pyramide solidaire s'appelait la pyramide de chaussures à l'époque, qui est le dernier week-end de septembre, ils ont décidé de nous proposer un concept absolument génial. C'est d'organiser et de lancer des monuments aux civils inconnus. Changer un mot, c'est changer le monde. De soldat, on est passé à civil. Le monument aux civils inconnus, pour rendre hommage à tous les civils victimes des guerres et des conflits armés. Ça, c'était une idée extraordinaire. Et en fait, c'est du fake. Mais on a fait des inaugurations de monuments aux civils inconnus à Bruxelles, à Genève, au Luxembourg, à Paris. Et ça, avec une officialisation extrême. Il y avait le pupitre avec les drapeaux derrière. Il y avait la musique qu'on a fait écrire, et gracieusement, une musique solennelle. Avec les députés qui nous suivent, les maires et la maire de Paris, Madame Hidalgo, avec les discours. Enfin, ça a été extraordinaire. Vous pourrez retrouver ça sur le web, sur le monument aux civils inconnus sur YouTube. Et bien sûr, j'ai fait un speech. Bien sûr, les députés ont fait des speeches. Bien sûr, Madame Hidalgo a fait un speech. Et elle a dit, Xavier, je vous promets, il y aura une place pour rendre hommage aux civils victimes des conflits armés à Paris. Et je lance encore un appel, Madame Hidalgo, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui encore, on a du mal à trouver un rendez-vous pour rendre actif, concret, réel et avéré l'installation, non pas d'un monument parce qu'on a vu que c'était trop compliqué, mais aujourd'hui d'un mur peint. Et qui l'a fait ? La ville de Lyon. La précédente mandature nous a autorisé. Et on a aujourd'hui un mur peint que l'on va finir par organiser en termes d'inauguration en septembre, parce qu'on devait le faire il y a un an, mais on n'a pas pu à cause du Covid. Eh bien là, on va inaugurer un mur peint. Et là, de nouveau, c'est le street artiste Brusque qui nous a donné son temps, donné son talent, qui l'a fait pendant une semaine, il a fait son mur peint, etc. Et on va inaugurer ça pour rendre hommage aussi à la connue. Vous voyez, des anecdotes, il y en a plein comme ça. Des interpellations politiques, des mobilisations, des sensibilisations, des colloques multiples et variés. Par exemple, on a lancé il y a 2 ans et demi un grand colloque de, on appelle ça un sommet de haut niveau, sur formation, emploi et handicap, avec des gens du monde entier. C'était à Paris et là aussi on a obtenu la salle quasiment gratuitement. Bref, on a obtenu beaucoup de choses et il y avait là notre secrétaire d'État au handicap. On avait là Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique. On avait là beaucoup de gens qui ont remué les idées autour de l'acceptation de la différence et du handicap pour écrire le grand livre blanc de l'inclusion. C'était des moments absolument merveilleux. Et vous voyez, autour de nous, on avait des partenaires qui ont financé ça. On avait des personnalités très, très inspirantes qui ont parlé. Et on a eu des personnes à la fois en situation de handicap et des personnes totalement invalides qui se sont mobilisées et qui ont jeté la voix, les idées, la trace pour essayer de travailler un monde toujours plus inclusif. Donc oui, c'est tout ça, ce sont des moments qui sont forts, des moments qui sont intéressants et des moments qui construisent. Alors j'ai aussi quelques voyages terrain qui me permettent de mieux comprendre notre mission. C'est vrai que je suis allé à Beyrouth et au Liban pour voir comment on travaillait sur le déminage. C'est vrai que je suis allé dans un grand camp de réfugiés, de 70 000 réfugiés, le camp de Gambela en Éthiopie, pour voir comment est-ce qu'on travaillait là-bas sur l'inclusion des personnes handicapées, de différentes nationalités, différentes cultures. Tout ça vous construit, tout ça, ça vous renvoie à des regards et des merci et des sourires qui sont, pour le reste de votre vie, extrêmement importants, extrêmement fondamentaux dans ce que je disais, c'est-à-dire que chaque seconde, chaque minute compte et chaque rencontre est importante.
Je te remercie beaucoup Xavier, c'est extrêmement inspirant et j'espère que les auditrices et auditeurs du Décodeur de la Com vont se dire que oui, on peut faire de la communication pour des très grandes marques, mais on peut aussi être dans le non-marchand et travailler avec des associations humanitaires parce que c'est globalement, l'humain reste selon moi la priorité qui devrait être celle de nos vies.
C'est vrai Laurent, mais tu vois, le secteur marchand est aussi important parce que ce sont des partenaires qui nous suivent aussi, qui nous payent. Quand Sophie Cluzel est venue à ce grand forum que l'on a organisé, à côté de Marie-Amélie Le Fur, ce sont des entreprises qui ont payé la soirée, qui ont payé différentes choses. Donc là, je me retrouve commercial. Et j'ai une équipe de commerciaux chez Handicap International. J'ai une équipe marketing qui, elle, travaille sur tout ce qui est collecte. On a une machine de guerre ici, vraiment d'une douzaine de personnes avec des data analysts, des experts de marketing direct, de emailing, de digital. Enfin, tout ça sont des métiers que l'on retrouve au sein d'une organisation telle que la nôtre et dans d'autres ONG, bien entendu.
Bien sûr, et l'argent reste le nerf de la guerre, hein, faut pas non plus se mentir. Hein.
Ah ben, c'est certain. Vous savez, chez Handicap International, on parle marge nette. C'est-à-dire qu'on est là pour que chaque organisation d'événements, chaque activité, depuis la France comme depuis les 8 pays dont j'ai parlé, soit collecteur. Et on n'est pas là pour dépenser, mais pour gagner. Donc on est aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une dynamique frugale en termes de dépenses.
Mais c'est tout à ton honneur et c'est d'ailleurs tout à fait naturel, parce que malheureusement, le passé nous a prouvé que certaines associations ont profité pour s'en mettre plein les fouilles. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Xavier, j'ai une petite question. Tu nous parlais de ton parcours, que tu es finalement une sorte de rescapé, de survivant, parce que tu as eu quelques soucis de santé, tu ne devais pas naître, comme tu le disais très justement. Je te remercie de cette confidence. Est-ce que tout ça, tout ce que tu fais aujourd'hui avec de 5h30 à 20h le soir, pardon, est-ce que ça te permet d'avoir une vraie vie pour toi ? Peut-être que la question est très intime, je te prie de m'en excuser par avance, mais...
Ah non, tu fais bien. Je travaille beaucoup sur le sujet de l'unité de l'être. Et on ne doit pas être différent quand on travaille que quand on est père de famille ou mari. Et je suis, j'ai le bonheur d'être très très bien marié, d'avoir trois très beaux enfants absolument sympas et merveilleux. Je passe mon temps à dire que si on n'est pas gâteux des enfants, qui le sera? Aujourd'hui, je suis grand-père. Aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, enfin, on vit dans un bonheur total. Il a fallu faire des choix. Mais le choix, il a été fait avec mon épouse. Hein. J'ai beaucoup travaillé. Elle a beaucoup assuré. Je prenais le relais. On est une équipe. On est un team. On est des associés. Voilà. On a fait des tas de choses dans la vie sans jamais trop se poser de questions. Toujours pareil. Hein, beaucoup par feeling. Et on a été tous les deux très créatifs au fond. Et tous les deux, on a avancé. Et si on n'avait pas été deux, j'en serais pas là. Elle a été extrêmement importante dans les choix de ma vie, forcément.
On va la saluer déjà. Comment s'appelle-t-elle, si tu peux le dire, bien sûr?
Elle s'appelle Isabelle la plus belle.
Isabelle la plus belle, ça tombe très bien. Moi aussi, j'ai une Isabelle la plus belle à la maison. Et les Isabelles sont évidemment les plus belles. Au-delà de la blague, j'ai une avant-dernière question à te poser. Et puis après, surtout, chose très importante pour moi, qu'on puisse faire un don à Handicap International. Mais mon avant-dernière question est la suivante. Dans toute ta carrière, quelle est la chose dont tu es le plus fier?
Waouh! Alors, le virage. C'est d'abord d'avoir toujours voulu faire ce que je voulais faire et être ce que je voulais être, avec assez peu de compromissions, quelques compromis. J'ai pris du temps hein, avant de réfléchir à la vraie destination de mes secondes, de mes minutes, de ma vie passée à faire quoi. Et je me sens pleinement à ma place. Donc au fond, s'il y a des satisfactions à avoir, c'est la satisfaction d'avoir fait toujours les métiers que je voulais faire avec les gens avec lesquels je voulais être et que chaque fois que je ne me plaisais pas, je changeais, point. Je ne posais pas les questions de savoir comment, quoi, machin, non. Je disais stop et donc je faisais autre chose et autrement. Et ça aussi, c'est très naïf et c'est pas courageux, c'est totalement inconscient. C'est même totalement débile. Si vous saviez, quand je suis arrivé à Lyon, ce que j'ai fait, c'est que j'avais peut-être pas terminé ma période d'essai, que tout le monde déménageait, ma femme était enceinte, elle allait accoucher 3 mois après. On a pris des risques majeurs, mais avec une très grande confiance. Donc voilà, toujours avoir fait ce que j'ai voulu faire, toujours avoir travaillé dans le plaisir. J'ai jamais pensé travailler, c'est pour ça que je me lève tôt. J'ai toujours eu beaucoup de passion à bosser, parce que c'est pas du boulot, c'est une passion, et que ça, c'est vraiment une vraie satisfaction.
Comment pouvoir donner, comment pouvoir s'investir financièrement ou peut-être humainement chez Handicap International?
Alors, vous allez sur handicap-international.fr, il y a là une page de dons et il y a 3 façons de nous accompagner. Vous pouvez donner, même des petites sommes, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc des petites sommes. Si vous voulez donner 10 € par mois, donnez 10 € par mois, c'est quoi? C'est même pas un paquet de clopes dont vous allez vous priver. 10 € par mois. Vous pouvez aussi aller sur notre site et décider de vous engager à nos côtés, d'être bénévole. Il y a plein de choses à faire en termes de bénévole. Si vous êtes étudiant, eh bien inscrivez-vous à la Nuit de l'innovation solidaire, qui est un hackathon solidaire absolument merveilleux. Nous étions 250 à le faire l'an dernier, tout en digital. C'était incroyable, d'une ambiance formidable. Donc là, on va le relancer. Donc la 3e édition, ce sera en janvier 2022, donc la Nuit de l'innovation solidaire. Et puis, il y a aussi à signer les pétitions qui sont là aujourd'hui à signer pour faire cesser le bombardement des civils. Donc, montrer qu'on est de très nombreux citoyens derrière Handicap International et les quelques 80 États aujourd'hui autour de nous pour faire cesser ce carnage. Et ne soyons pas la génération qui aura fermé les yeux et qui aura dit « on ne savait pas ». Oui, on le sait, et je le répète, et que ça se sache, 90% des victimes aujourd'hui sont des civils. Donc ne lâchez rien, signez les pétitions, donnez, engagez-vous, devenez bénévoles. Il y a 1000 façons de tendre la main à ces pauvres victimes.
Eh bien, Xavier, c'est sur ces bons mots très poignants que nous allons nous quitter. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, très sincèrement.
Mais je t'en prie, Laurent, merci à toutes et à tous et à très bientôt sur notre site, sur les réseaux sociaux, où vous voulez.
Merci beaucoup. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu le témoignage, limite le plaidoyer de Xavier. C'était un véritable plaisir. Ça change un petit peu de nos invités habituels, mais vous avez vu que c'est un grand professionnel de la communication, aujourd'hui encore après un superbe parcours. Alors, si justement vous voulez entendre des super profils, des gens formidables comme Xavier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Eh bien oui, nous sommes inféodés à Monsieur Apple, donc on va faire avec. Et encore une fois, je vous remercie par avance de laisser un commentaire, de noter 5 étoiles, de partager, parce que là, on est vraiment sur un parcours très inspirant. Et Xavier, je te remercie encore une fois du fond du cœur. Merci pour ton temps accordé.
Merci Laurent. Au revoir.
À bientôt. Ciao, ciao.